Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Accès Libre. C'est Christiane Campagna avec vous encore cette semaine à l'animation et comme toujours à la recherche. Il y a Jean-Sébastien Laliberté qui est avec moi de l'autre côté de la console au support technique et moral. Merci d'être là, Jean-Sébastien. Aujourd'hui, c'est évidemment encore une émission marquée par la COVID, à l'exception peut-être d'un autre sujet. On parlera design pour les personnes qui vivent avec un TSA, on parlera du métier d'ergothérapeute, on parlera soins à domicile et dans quelques instants, le 40e anniversaire du RUT à Montréal. Et oui, on n'en sort pas. La COVID et le fait que plusieurs régions sont maintenant en zone rouge va bien évidemment marquer une bonne partie des sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Et un de ces sujets-là, c'est bien entendu le transport pour les personnes en situation de handicap. Mais aussi, on voulait parler à Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, parce que l'organisme fête ce mois-ci ses 40 ans. Bonjour, Monsieur Poulin.
Ben bonjour.
Ça va bien?
En pleine forme. Écoutez, on fait avec, comme vous dites, la situation COVID n'aide pas tellement le monde, ni les transports, mais on essaie de travailler à s'assurer que les droits des personnes en situation de handicap ne soient pas bafoués et que ça demeure sécuritaire, les transports collectifs.
Et c'est une mission que votre organisme donc mène depuis longtemps. Tout d'abord, on va parler de ce 40e-là. Rappelez-nous un peu comment ça a débuté, le regroupement des usagers du transport adapté de Montréal.
Ben écoutez, rappelons-nous qu'avant les années 80, en fait, il y avait des sociétés, il y avait en fait des organisations privées qui avaient mis des transports adaptés sur pied. On pense entre autres à Montréal, aux Frères Forêt, qui, grâce à une subvention que leur avait donnée leur mère, en tout cas, puis que c'était des personnes en situation de handicap, avaient comme créé un transport adapté. Lors de l'arrivée de la loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en 1978, évidemment, c'est devenu un dossier politique et dans lequel on a dit non, les personnes en situation de handicap se doivent d'être transportées comme l'ensemble des citoyens. Alors, ça a été transmis aux sociétés de transport, notamment à Montréal, à la STM, et je vous assurais qu'au début, c'était pas... ils n'en voulaient pas, on va dire la vérité, là. C'est un dossier qu'ils ne voulaient pas, parce que c'était complexe à faire, puis tout ça, puis en tout cas. Mais sauf que, la loi l'exigeait, que les municipalités se dotent de transports adaptés, ils l'ont pris. Et donc, ça a été créé en 80. D'ailleurs, le transport adapté de Montréal fête aussi ses 40e. Et c'est suite à ça, justement, c'est dans la même lignée qu'a été créé le regroupement des usagers de transport adapté et accessible. C'était pas accessible à l'époque. C'était juste transport adapté au début. Donc, on s'occupait, parce que les usagers, au début, comme je vous dis, c'était fait du mieux possible, mais il y a des gens qui étaient transportés dans des camions vraiment pas adéquats, c'était trop petit, c'était trop... Mais dès que c'est devenu à la STM, on a créé le RUTA pour, justement, commencer les revendications des droits des personnes en situation de handicap à de la sécurité et aux services.
Et au fil des années, vos relations avec la STM, est-ce qu'elles se sont transformées?
Ça a parti, c'était pas évident au début. Là, on s'entend que, moi je me rappelle, là, si on relève dans les années 89, 10, 11, tout ça, là, les réunions avec la STM, c'était jamais évident. Il y avait beaucoup de réticence. Il y a des gens qui étaient ouverts. Par ailleurs, il y a des acteurs importants qui ont travaillé à dire, travaillons ensemble, même si c'est pas évident au début, on va finir par être capable d'établir ensemble des manières de fonctionner, puis on va avoir les feedbacks des usagers. On va pouvoir être en mesure d'avoir de meilleures réponses aux besoins. Ça s'est amélioré, c'est sûr. On travaille maintenant en partenariat. Cependant, ça demeure pas moins qu'on a quand même encore notre mission de défense des droits. Et c'est sûr que nous, notre préoccupation première, c'est de ramener les feedbacks des individus aux instances concernées, autant au niveau du transport adapté qu'au niveau du transport régulier, parce que depuis à peu près, 2000, on s'occupe maintenant aussi de l'accessibilité du transport régulier. Et ça, autant au niveau de la STM que de l'ARTM, que d'Exo, que de ce qui s'en vient, notre futur rêve.
Ben oui, c'est ça, encore beaucoup de transformations. Est-ce que c'est plus facile qu'avant de faire valoir qu'il faut que ces transports-là soient accessibles?
Ben, c'est toujours complexe. Évidemment, on lutte contre des grosses machines, on ne se le cachera pas. Elles sont très bien organisées, tout ça. Cependant, on sent quand même une volonté, mais c'est sûr que ça ne va jamais à la vitesse qu'on souhaiterait. Là, je veux dire, quand on sait qu'il y a quoi, une quinzaine de métros accessibles sur 63, on a autre qu'il y en a plus. Les gens ont soif d'autonomie, et ça avec raison. Alors nous, c'est sûr qu'on continue à pousser. On a vu de nettes améliorations, mais c'est jamais assez vite pour les usagers, puis il faut se mettre à leur place. Ils veulent participer à la société comme des citoyens par entière. Donc, si on les... Puis le transport adapté, c'est peut-être pas toujours la meilleure solution. Le transport adapté, c'est bon, mais ça manque de spontanéité. Ça... Donc, les gens peuvent pas... Ils doivent toujours programmer d'avance, ce qui fait que on améliore les services et tout, mais les gens ont soif d'autonomie, puis nous, en tout cas, c'est ce qu'on pousse beaucoup.
Et le problème du métro, justement, c'était qu'on n'y avait pas pensé dès le départ, puis que c'est toujours plus compliqué de faire des travaux par la suite. Ça, est-ce que ça commence à s'améliorer, le fait de penser à l'accessibilité en amont?
Bien, en tout cas, c'est le message qu'on passe désespérément, mes équipières et moi, et plein de monde du milieu associatif, dans l'ensemble des limitations. On passe ce message-là, de dire non, mais attendez pas ou essayez pas de faire des choses sans travailler avec le milieu, parce que sinon vous allez avoir des mauvaises surprises. Oui, on voit que dans les nouvelles stations, en tout cas, on en tient compte. Au niveau du REM, ben ça, il y a beaucoup de choses à travailler, parce qu'on sent là que il y a certains acteurs du milieu qui souhaitent ça, ils veulent aller rapidement en même temps. Bon, là, on a toute une bataille à mener au niveau du REM, puis on leur dit, arrivez-nous pas avec des présentations déjà toutes faites, parce qu'il y a des choses que c'est sûr qu'on sera pas content, puis qu'on va contester, puis là, vous allez nous revenir en disant, ben écoutez, on peut pas le faire, il est trop tard. Alors, on veut pas en arriver là. On souhaite que, justement, la consultation en amont existe à tous les niveaux. Et ça, autant, dans l'ensemble des transports collectifs montréalais, puis je dirais même québécois.
Parce qu'on l'a vu dernièrement avec certaines nouvelles stations de train de banlieue qui étaient inaugurées sans accessibilité.
Exactement. Et ça, pour moi, moi et mon équipe, on dit souvent, écoutez, on sait qu'on est avec le rétrofit, c'est plus complexe. C'est pas une excuse, mais on le sait. Puis il faut vivre malheureusement avec les conséquences de ça. Mais nous, en tout cas, en ce qui nous concerne, on demeure intraitable pour ce qui est nouveau. On dit non, là, c'est un discours public connu et je pense, prôné depuis plusieurs années. Alors là, on n'est plus à l'époque de dire, ben j'y avais pas pensé.
Voilà, exactement. Vous avez eu une rencontre dernièrement, le 30 septembre. Il s'agissait de quoi exactement et qu'est-ce qui en est ressorti?
Ben écoutez, premièrement, ça a été une belle rencontre. Mais ça, c'était plus avec nos membres.
Avec vos membres, c'est ça?
Oui, grâce à notre agente de mobilisation, Pauline, qui fait un excellent travail, qui a quand même réuni plus d'une quinzaine de membres sur Zoom, parce qu'évidemment, COVID-19...
Oui, c'est plus compliqué de se consulter.
Et les personnes, malheureusement, dans beaucoup de cas, ne veulent pas sortir, pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent et qui sont aussi très réalistes. Mais on fait quand même des rencontres pour les informer puis leur demander... Ben, à quoi vous vous attendez au cours des prochaines années. Certaines choses sont ressorties. Ils ont quand même trouvé que, bon, malgré les retards qu'ils rencontrent au transport adapté un petit peu, là, que c'était quand même bien, en tout cas qu'on essayait de faire ça de façon sécuritaire. Au niveau du transport régulier, j'avoue qu'on a un petit peu plus de difficultés à avoir des feedbacks, entre guillemets, on en a un peu. Mais les gens, pour toutes sortes de raisons, ne sortent pas. Puis bon, dans les zones où on est, notamment la rouge, ben là, hein. Alors les gens évitent vraiment de sortir, sauf pour leurs besoins essentiels. Alors, je vous dirais que c'est un petit peu plus complexe, là. Mais les gens sont très, très, très contents de nous savoir là. Et moi, je suis énormément satisfait de voir, puis j'aimerais en avoir plus, on en veut toujours plus, mais de voir les gens qui participent, ça leur permet de discuter entre eux. Ça leur permet d'avoir des informations qu'on leur transmet, notamment concernant le port du masque et tout, qu'on leur a parlé. Tout ça. Alors, je pense que c'est intéressant pour eux autres et ça suscite une meilleure participation, une participation aussi beaucoup plus active.
Ça fait déjà un bon moment là, que le port du masque est obligatoire, mais on sait qu'il existe des exceptions. Est-ce que vous avez eu du feedback en lien avec ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont rencontré des problèmes?
On en a eu quelques-uns. Ça semble un peu s'estomper. Le petit problème qu'on a eu, c'était sur on voulait pas que, et je répète toujours qu'on est toujours en faveur fortement du port du masque, mais il fallait que les informations soient diffusées sur notamment les services au niveau du transport adapté pour dire, ben écoutez, communiquez avec le service à la clientèle si vous croyez avoir une exemption. Par exemple, une personne TSA, c'est pas évident. Une personne quadriplégique, tu peux pas mettre le masque à l'air.
Voilà.
Je parlais avec M. Fortin chez vous lors d'une entrevue avec une usagère qui dit, moi, je vais me le faire mettre par mon voisin. Moi, je l'ai rappelé. Après, je lui dis, mais non, tu ne fais pas ça. C'est dangereux pour ta sécurité. Alors, je comprends que tu veux être de bonne foi. Nous, on croit que les gens sont de bonne foi, en tout cas, en majorité, et que, ben, je pense que c'est important d'utiliser l'information. Alors, nous, on a fait circuler l'information à travers nos organismes, parce que la SPM l'a publié quand même, mais ils l'ont mis dans un catacombe de l'Internet, notre agent de mobilisation qui est ultra habile sur Internet, ça a pris 10 minutes à le trouver. Alors, on trouvait ça, on a dit, ben, il aurait pu le mettre sans. On ne veut pas faire la promotion de l'exemption. C'est pas ça l'idée. Mais il y a des gens qui, dans leur situation, se retrouvent avec cette problématique-là. Alors ça, il faut le considérer.
Et qu'elle ne soit pas isolée à cause de ça.
Exactement, parce qu'on a des parents en détresse qui nous ont appelé, disent « Ah, mon enfant était ça, là, je ne peux plus l'envoyer des camps de jour en panique complète. » Non, non, on va régler ça. Alors, on a beaucoup travaillé avec notamment le transport adapté à ce niveau-là. Au niveau du transport régulier, j'avoue que j'ai pas eu de feedback sur les obstacles rencontrés par les gens, parce que ce qu'on me dit, c'est ben écoutez, si une personne manifeste qu'il y a une exemption possible, ben, on la laisse passer, comme l'avait dit Dr. Arruda, ben, sans demander de papier médical et tout. Là.
Une dernière petite chose, toujours en lien avec la COVID, on dit que l'essor du télétravail va créer des opportunités pour les personnes en situation de handicap, mais est-ce que ça peut être une arme à double tranchant? Est-ce que vous craignez qu'on invoque le télétravail pour comme excuse pour moins investir dans les transports accessibles?
Ben, on va espérer que non, mais évidemment, votre question a un très bon fondement, c'est que on va espérer que ça ne sera pas le cas, parce que de toute façon, il n'y a pas juste le travail dans la vie, il y a les activités, il y a tout le côté social. Alors, je pense que c'est ben beau dire, OK, je peux travailler chez nous, j'ai pas besoin de transport accessible, mais c'est pas vrai. On en a besoin pour aller à l'épicerie, on a besoin pour faire nos activités de la vie quotidienne, on en a besoin pour socialiser, on en a besoin pour mille et une choses. Alors, c'est pas, en tout cas, on n'a pas entendu jusqu'à date, heureusement, de coupure à ce niveau-là, mais soyez assurés que le Ruta de Montréal va veiller au grain, puis nous, on ne laissera jamais passer ça, parce que c'est pas... Une personne a le droit d'être transportée. C'est un droit, là, je veux dire, c'est fondamental pour nous. Alors, qu'elle le fasse, qu'elle travaille chez elle, si effectivement, c'est une opportunité, ça peut être une chose, mais on a tous besoin de se transporter pour différentes raisons. Je connais pas quelqu'un qui pourrait vivre constamment chez elle, puis de jamais sortir de là. Et de toute façon, si ce n'est qu'au niveau mental, ce serait vraiment pas génial.
Alors, Serge Poulin, directeur général du regroupement des usagers du transport adapté et accessible de l'île de Montréal, on souhaite une longue vie encore à votre organisme et on vous remercie de veiller au grain comme ça.
Bien, merci beaucoup, madame, et j'en profite pour saluer et d'encourager nos auditeurs et auditrices à continuer de suivre les mesures, puis on va espérer bientôt qu'on va pouvoir se transporter, faire du social et faire nos activités régulières.
On se retrouve dans un instant pour parler de design pour les personnes ayant un TSA. All the streets are crowded, and there's glass everywhere.
like he's never seen love. An addiction stays untied like a glove.
Un petit souvenir d'Emmylou Harris de 1995, une chanson écrite et réalisée par Daniel Lanois. On poursuit avec Célèbre aujourd'hui avec Virginie Lassalle, qui est professeure en design à l'école, en design d'intérieur à l'École de design de l'Université de Montréal, membre du laboratoire d'études de l'architecture potentielle et avec qui on va discuter aujourd'hui de design pour les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme. Bonjour, Madame Lassalle.
Bonjour.
Vous allez bien?
Ça va très bien, vous-même?
Oui. Bien, tout d'abord, la première question que je me demandais, c'est comment est-ce qu'on en vient à s'intéresser comme ça au design de milieu de vie pour les personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme?
Alors, mon intérêt, on pourrait dire que ça remonte au moment où j'ai fait une autre recherche, il y a quelques années, qui questionnait les environnements spécialisés pour les personnes aînées, tout particulièrement les CHSLD. Donc, mon intérêt vient de la manière dont on conçoit des milieux de vie spécialisés.
On va peut-être s'en reparler une autre fois de ça.
Oui, d'accord.
C'est très d'actualité.
Oui, oui, oui. Donc, c'est des milieux de vie pour des gens, des personnes qui ont une certaine vulnérabilité, qui sont quelquefois sous-représentées pour la conception des lieux qui leur sont destinés. Donc, de là est venu, je pourrais dire, un modèle de compréhension de ces milieux de vie qui intègre la signification du chez-soi, puis qui veut apporter davantage de signification dans ces milieux qui en manquent fréquemment. Et puis, par la suite, la Fondation Véro et Louis s'est intéressée à mes travaux et a voulu savoir comment, finalement, cette approche-là pouvait servir la conception de la première maison qui va ouvrir prochainement.
Quand on pense aux personnes qui ont un trouble du spectre de l'autisme, on pense d'abord peut-être aux personnes qui sont hypersensibles. Alors, on imagine automatiquement avoir quelque chose de très calme, voire beige, là. Mais il y a aussi des personnes hyposensibles qui ont un TSA. Tout d'abord, c'est quoi la différence?
C'est une très bonne question. Puis moi, quand on me pose cette question-là, je veux tout de suite préciser que je ne suis pas une spécialiste de l'autisme,
non,
mais des environnements, de la conception des environnements bâtis. Donc, en fait, les personnes autistes, comme toutes les autres personnes, ont des sensibilités, des préférences et des réactions plus ou moins grandes à leur environnement. Ce qu'on observe chez les personnes autistes, c'est qu'elles ont des réactions qui sont quelquefois exacerbées, très amplifiées, que ça soit en réaction à quelque chose qu'ils aiment ou qu'ils n'aiment pas. Et ils ont des besoins, semble-t-il, d'être stimulés davantage ou apaisés davantage que la majorité des gens. Surtout parce qu'elles ont moins la possibilité, semble-t-il, de s'auto-réguler puis de s'adapter aux conditions qui les entourent. Je ne sais pas si je m'exprime clairement.
Oui, tout à fait. La question, donc, c'est si on doit créer un milieu de vie où les deux types de personnes, celles qui ont besoin d'être apaisées et celles qui ont besoin d'être stimulées, vont cohabiter, comment est-ce qu'on fait pour que les deux choses puissent coexister?
C'est une très bonne question. Alors, ce qu'on a tendance à faire, une bonne piste de réponse, c'est de faire des lieux qui sont très flexibles et qui permettent une adaptation aux besoins, aux préférences des gens selon qui occupe un lieu, à quel moment. Donc, par exemple, dans un lieu destiné spécialement aux personnes autistes, on aura en effet souvent une base relativement calme, apaisante, assez épurée, et on pourra venir ajouter des éléments, modifier la lumière, les vues, ajouter de la couleur, par exemple, avec du mobilier, des éléments qui s'ajoutent, des objets qui s'enlèvent. Donc, il y aura cette possibilité de manipuler les composantes, les caractéristiques de l'espace selon les besoins du moment.
D'accord. Et là, est-ce qu'il y a aussi des éléments de sécurité dont il faut tenir compte si on parle peut-être, dans certains cas, de personnes plus ou moins autonomes?
Oui, il y en a plusieurs. Par contre, dans le cadre de l'étude des recherches que je fais, ça porte moins directement sur les questions de sécurité parce que c'est quand même des paramètres qu'on maîtrise assez bien. Disons que la question qui nous intéresse davantage, c'est le vécu des personnes autistes dans les lieux. Donc, les questions de sécurité arrivent peut-être dans un second ordre, si on veut, si on ordonne les critères qui nous intéressent le plus.
Mais parlons justement là, de ce projet de recherche pour lequel vous avez récemment obtenu des fonds. C'est quoi l'objectif de la recherche, au bout du compte?
Oui, le titre de notre recherche, c'est « Concevoir des lieux avec, par et pour des personnes autistes ». Donc, l'idée, c'est d'abord et avant tout d'élaborer un dispositif de conception, vraiment de conception de l'environnement bâti, qui intègre des personnes autistes de différentes manières pour essayer de mieux cerner, de mieux comprendre avec plus de finesse leur rapport à l'environnement bâti, leurs besoins, leurs préférences, leur expérience particulière des lieux.
Et on dit par et pour, donc c'est qu'il y a aussi des personnes ayant un TSA qui seront consultées?
Exactement. Non seulement consulter, on essaie vraiment de les intégrer à type de partenaires, de collaborateurs de conception. Donc, si je peux brièvement vous dire l'étude, oui, un petit instant pour ça. Il y a trois volets principaux dans l'étude. Le premier volet, ça consiste en une évaluation post-occupationnelle. Autrement dit, c'est qu'on va aller évaluer un environnement existant pour voir de quelle manière il est vécu par les gens qui l'occupent, et ce sera la résidence de la Fondation Véro et Louis lorsqu'elle aura été habitée pendant une certaine période de temps.
D'accord.
On ira rencontrer les gens qui l'habitent pour collecter des informations sur leur expérience des lieux. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième étape, ça se déroule en atelier de conception à l'Université de Montréal. Alors, en aménagement, en conception de l'environnement bâti, on a une formule pédagogique qui s'appelle l'atelier de design de conception, qui consiste à donner un projet fictif aux étudiants qui élaborent toutes les étapes du processus de projet pour finalement faire une proposition de design. Donc, par exemple, cette session-ci, je demande à mes étudiants de concevoir un centre de jour pour personnes autistes. Ils vont se mettre en équipe de deux, ils vont passer à travers toutes les étapes pour faire une proposition. Dans le cadre de notre projet de recherche, des personnes autistes vont être intégrées aux équipes de conception à l'Université de Montréal pour vraiment donner leur avis, concevoir, créer avec les étudiants. Et ça implique que non seulement le rapport va être en lien avec le résultat, la proposition des vins, mais aussi dans le processus de conception lui-même, comment on conçoit avec une personne autiste. Et la troisième étape, au terme de ces deux volets-là, c'est d'élaborer une plateforme en ligne qui veut utiliser les productions des équipes de co-conception personnes autistes étudiants. Je ne sais pas si vous avez un peu en tête le genre de visualisation 3D là qu'on peut avoir, des perspectives assez réalistes des lieux qu'on conçoit en architecture, en design. Donc, on a des vues comme ça là, qui projettent ce qu'on voudrait concevoir. Donc, ce genre de vues-là qui serait utilisé sur une plateforme en ligne dans lesquelles on varierait, par exemple, les ambiances lumineuses, les matériaux, les vues, la volumétrie des espaces pour aller recueillir de l'information sur les préférences des personnes autistes par rapport au lieu qu'on leur propose. Donc ça serait la troisième étape, oui.
Et au bout du compte, ce serait que ce genre d'outils-là soit accessible aux personnes qui ont à faire du design pour les personnes ayant un TSA?
En fait, on veut que notre processus de conception avec les personnes autistes puisse, oui, informer, par exemple, une firme de design ou d'architecture qui conçoit pour des personnes autistes, qu'ils prennent appui sur notre démarche dans laquelle on aura fait des constats, comment bien concevoir, des stratégies d'intégration, tout ça, pour qu'elles puissent être davantage entendues, qu'elles aient davantage leur mot à dire dans ces processus-là. Et l'autre chose, c'est de connaître avec plus de finesse, mieux comprendre leur rapport à l'environnement bâti. Et ça, c'est des informations qui peuvent servir autant les concepteurs qu'éventuellement des décideurs, des gestionnaires, des gens qui veulent adapter leur lieu d'habitation pour les gens qui ont des besoins particuliers, comme les personnes autistes.
Et merci beaucoup, Mme Lassalle. Et comme je vous disais tout à l'heure, c'est intéressant déjà qu'on parle de milieu de vie plutôt que juste de créer un... Ça prend plus qu'un toit au-dessus des têtes quand on a des besoins particuliers. Et on risque de se reparler pour la question des CHSLD puisque je trouve que c'est quelque chose qui est aussi, avec la crise sanitaire qu'on vit actuellement, à laquelle il serait important de réfléchir. Alors, merci beaucoup, Mme Lassalle. À une prochaine fois.
Plaisir. Au revoir.
On se retrouve après la pause pour parler d'ergothérapie. et de soins à domicile. Bonjour tout le monde, Christiane Capagnat avec vous à Accès Libre. Dans la prochaine demi-heure, dans quelques minutes, on va parler de soins à domicile. Mais juste avant, on va parler d'ergothérapie. En février dernier, on avait parlé à Frédéric Loisel afin de mieux comprendre les multiples facettes du métier d'ergothérapeute. Mais on se doute bien que pour beaucoup d'autres métiers de la santé, ça a été chamboulé dans les derniers mois par la crise sanitaire. Alors, on a décidé de profiter du fait qu'octobre est le mois de l'ergothérapie pour prendre des nouvelles de Frédéric Loisel, qui est ergothérapeute à l'Institut universitaire sur la réadaptation en déficience physique de Montréal. Bonjour, Monsieur Loisel.
Bonjour, Madame Capagnat. Je vous appelle Christiane.
Oui, bien sûr.
Ben, bonjour, Christiane.
Frédéric, quand on s'était parlé en février dernier, vous étiez au programme Transition École Vie Active en déficience physique. Là, j'ai vu à votre signature que votre rôle a un petit peu changé.
En fait, c'est intéressant qu'on se parle aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui même, le 5 octobre, je retourne dans mes fonctions usuelles et cliniques en très grande partie.
Okay.
Parce que oui, depuis le mi-mars, dès le départ, là, quand la crise, la première vague a vraiment frappé, plusieurs d'entre nous, ergothérapeutes et toutes les autres professions ou disciplines là, paramédicales, je pense orthophonistes, psychologues, psychoéducateurs, éducateurs et j'en passe, ben, plusieurs d'entre nous avons été délestés, c'est-à-dire qu'on a quitté nos bureaux, nos clientèles pour aller donner main forte ou porter du renfort en deuxième ligne, c'est-à-dire moi, dans mon cas et pour plusieurs, on était une cinquantaine de l'Institut Raymond Devoir et de Lucie Bruno, le Centre d'adaptation en médecine physique, pour se rendre à l'Institut Gingras des Îles de Montréal dans Côte-des-Neiges, qui est notre gros centre de réadaptation là,
oui.
À l'Université de Montréal. Alors, pour que les gens comprennent un peu, là, la première ligne, c'est souvent dans les cliniques médicales, les CLSC, les grands hôpitaux, les urgences. La deuxième ligne, c'est la réadaptation, que je donne un grand résumé. Puis la troisième ligne, c'est nous, un petit peu en réadaptation, quand on est signalé là, le retour à la maison, au travail, dans les activités courantes de la vie quotidienne. Bien, ça, c'est la troisième ligne. Alors, beaucoup d'entre nous qui voyons des clients en externe, en troisième ligne, dans nos centres, là, l'IRD et Lucie Bruno, on est allé porter main forte. Alors oui, j'ai fait toutes sortes de choses, Christiane. Laver des jaquettes, désinfecter, travailler 7 jours sur 7, ou pratiquement 6 jours sur 7, des soirs, le matin, finir tard, faire de la surveillance, désinfecter des gymnases, désinfecter des meubles, faire la police un peu, entre guillemets, pour s'assurer que nos clients et par la suite nos familles respectent les consignes sanitaires. Bref, toute une aventure. Puis aujourd'hui, je reviens à mon bureau. Depuis 6 mois, j'étais parti.
Et pendant ce temps-là, les gens que vous voyez d'habitude, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont été, est-ce qu'ils n'ont pas pu avoir des consultations? Tout était arrêté?
Effectivement, c'est ça. Je dois être honnête avec vous, je n'avais pas dormi les premières semaines en pensant à ma jeune clientèle. Comme vous savez, moi, je travaille avec la déficience physique, hein, autant sensorielle, langage, surdicité, puis les troubles moteurs neurologiques. Donc, les jeunes en transition vers la vie adulte, donc des jeunes de 16 ou plutôt 18 à 26. Alors, on s'est assuré, bien sûr, en individuel, hein, chaque client, comme vous savez, il y a toujours un clinicien qui est responsable ou qui est intervenant pivot. Alors, on s'est assuré que chacun de nos jeunes adultes clients ben, ait au moins un filet de secours, des références, une ressource quelconque pour les soutenir pendant cette vague. Car oui, malheureusement, on a dû abandonner, en quelque sorte, encore là, entre guillemets, nos clients pour aller porter main forte à toutes sortes de tâches là, vers la deuxième, première ligne et beaucoup aussi en CHSLD.
Est-ce que ça vous inquiétait de peut-être qu'il y ait des acquis qui soient perdus ou du retard pris par ces jeunes-là?
C'est une très bonne question. Vous savez, moi, avec le cirque social, on avait parlé un petit peu, hein, je crois, lors du dernier entretien. On développe depuis, ça fait déjà 10 ans, là, que maintenant, une équipe à la TEVA, Transition pour la vie active, TP, c'est le nom de notre programme. On développe des compétences de base à la vie quotidienne, des life skills, des compétences de vie, si on veut, essentielles pour affronter les défis du quotidien. Puis la bonne nouvelle, Christiane, c'est extrêmement touchant. Un peu comme dans ma recherche, là, quand j'avais fait mon étude sur le cirque social, où on développait ces compétences-là auprès des jeunes. C'est-à-dire tout ce qui touche, hein, l'autonomie au transport, tout ce qui touche vers la perception de soi plus réaliste, plus positive, hein, son image de soi, sa confiance en soi, la confiance envers les autres, tout ce qui touche les relations interpersonnelles, aussi pré-vocationnelles, préparatoires à l'emploi, tout ce qui touche aussi les responsabilités comme une personne gérer sa santé, son dossier, son hygiène de vie, et tout ce qui touche la communication, bien sûr, ben, ces compétences de base-là, comme dans mon étude, ben, normalement, si on a appris ou on a réussi à réussir ou à se sentir efficace dans ces compétences-là, ben c'est rare qu'on en perd. Puis vendredi, il y a 2 semaines, on a eu la chance de rencontrer nos 14 jeunes qu'on a dû abandonner, encore une fois, entre guillemets, laisser en mars dernier pour aller au front. Ben, on les a revus pour conclure un peu notre année qui avait débuté et qu'on a dû arrêter rapidement. Et notre grande surprise, puis je vous en parle, j'ai le poil qui dresse sur les bras, puis j'ai les yeux larmoyants. Je me rappelle, on était très touchés de voir nos jeunes qui, malgré une absence de nos services pendant 6 mois, comme on avait déjà donné pratiquement un 3-4 mois intense avec eux, on avait réussi là, à semer les bonnes graines, à leur donner ces compétences de base là en partie. Eh bien, Christiane, quand on les a vus, on était surpris de voir comment ils allaient relativement bien. Ils étaient fiers, ils ont poursuivi leur chemin, leur projet, et ils nous remerciaient comment on avait pu faire une différence. Alors, c'est ce qui me soulage, parce que comme je disais, quand on a dû partir au front, puis moi, je suis parti comme un autre, un des premiers dans mon équipe ici, dès la mi-mars, fin mars, et revenir 6 mois après, quand j'ai vu ces jeunes-là, ben, ça nous a marqué, mais on a vu qu'ils avaient quand même été capables de prendre et tout ce qu'on leur avait donné, tout ce qu'ils ont pu acquérir comme compétences, comme force intérieure, hein, dans leur perception d'eux-mêmes, leur confiance en eux-mêmes, puis ont pu quand même poursuivre leur cheminement relativement bien. Ce qui veut dire qu'on fait du bon boulot tous ensemble. Mais donc, de notre côté, c'est peut-être pas le cas pour mes collègues ou consoeurs, confrères à côté un peu, qui ont travaillé en petite enfance. Hein, parce qu'on sait que déjà, dès le mois de fin juin, je dirais le mois de juillet, par vague, plusieurs professionnels qui étaient dédiés, si on veut, à la petite enfance, les 0-5 ans, tout ce qui est préparatoire à l'école, tout ce qui touchait aussi la personne âgée, les CHSLD, tout ce qui touchait aussi les services offerts aux familles en déficience intellectuelle et particulièrement en troubles du spectre de l'autisme, ben, tous ces professionnels-là ont été priorisés pour qu'ils quittent leur poste au front et qu'ils retournent à leur poste pour aider ces clientèles jugées, hein, parmi toutes les priorités gouvernementales du ministère de la Santé comme étant les plus vulnérables et les plus propriétaires et prioritaires. Alors moi, j'arrive parce que c'est un peu spécial, c'est que j'ai donné un appui, je suis un gars de plusieurs couleurs et qui a plusieurs cordes à son arc, alors j'ai aidé la direction adjointe à engager, orienter, accueillir tous les nouveaux employés de la Croix-Rouge. Et je contribue, merci à tous ces Québécois qui ont donné du temps et qui en donnent encore, on en veut encore, qui sont devenus porter main forte là, pour que nous, les professionnels, on puisse retourner à nos fonctions comme moi aujourd'hui plus officiellement.
Et là, vous repartez au programme TEVA avec une nouvelle cohorte?
Bien, en fait, notre cohorte va être un peu différente. On retrouve dans le plan de retour, si on veut, à nos services, du moins je parle pour nos programmes en DP, en déficience physique, dans le CIUSSS Centre-Sud de l'île de Montréal, mais ça doit être seulement un peu comme ça à travers les CIUSSS et les CIUSSS du Québec. Bien, on s'était donné comme objectif de reprendre l'entièreté de nos services, bien sûr, adaptés à la COVID, c'est-à-dire en Zoom, oui, en télécontrôle. En téléthérapie, en visite à domicile, où on se rejoint dans les lieux publics en parc, on peut quand même faire des interventions là, significatives, importantes, pertinentes. Mais alors tout ça pour dire qu'on s'était comme en l'entente et que nous reprenions nos services le plus possible dans nos volumes usuels de clientèle pour genre fin décembre, si on veut, décembre 2020, donc un retour en janvier 2021. Bien sûr, on est en pleine deuxième vague, on ne sait pas si on retournera encore une fois au front. Je ne crois pas, puis là, je ne peux pas parler au nom du gouvernement ou de mon organisation, mais ayant travaillé depuis 6 mois auprès de la direction adjointe, ce n'est pas la priorité. On veut vraiment maintenir le plus de services auprès de nos clientèles, parce que quelque part, elles sont toutes importantes, prioritaires et vulnérables. Mais cela étant dit, on espère que la deuxième vague ne frappera pas autant, parce que, comme on le sait, Christiane, on l'entend dans les médias, puis j'ai été témoin hein, de visu pendant les tests ces derniers mois, on commence à avoir du personnel fatigué, on commence à voir du personnel qui doivent quitter parce qu'ils sont papa, maman, d'enfants dans les écoles. Alors, mon Dieu, j'ai un cri du cœur, puis je prends votre tribune pour dire aux gens, respectons les consignes, respectons, soyons solidaires pour qu'on puisse passer à travers cette deuxième vague-là, parce que j'ai des craintes.
Parce qu'il ne s'agit pas seulement de risques pour notre propre santé, il s'agit d'un effet domino ensuite.
Un effet domino, qu'on vient de dire, qui veut pas, affecte nos populations, nos clientèles vulnérables. Et même si on est en intégration sociale, comme pour moi et mon équipe, ben c'est drôlement important, parce qu'il y a plein de jeunes qui ont pas toutes des familles fonctionnelles, ou du moins qui ont toutes les capacités à les aider à transiter vers une vie active, une vie citoyenne forte et sereine et satisfaisante pour tous. Puis là, je passe à côté, bien sûr, de tous les cas dont on a entendu, les chirurgies reportées, les traitements de cancer. Alors, il faut éviter. Puis c'est ce que je pense que nos réseaux de santé vont faire de toute leur force pour maintenir les services. Mais je vois qu'on est conscient que notre réseau, nos préposés, infirmières, médecins et tout le monde, on est à bout de notre rôle un peu. Hein. Alors, là, il faut que la communauté fasse encore des efforts supplémentaires, même si on sait que c'est difficile à plusieurs égards, puis on est frappé de plein fouet, tout le monde, de différentes façons dans nos vies, dans notre quotidien.
Est-ce qu'il y a des choses qu'on a apprises dans les derniers mois qui vont pouvoir servir par la suite? Je pense justement à toute l'utilisation de Zoom et de la visioconférence.
Eh bien oui, puis même pour nous professionnels, c'est vrai que moi, je me considère pas un vieux, mais ça fait 30 ans, donc je pense pour les plus, pour mon technologie, je me fais faire à jour, encore ce matin, j'essaie de me brancher, puis de mettre mes portables personnels à jour pour justement, dans l'éventualité, de faire du télétravail, du télézoom, la thérapie même de chez moi, ce qui est pas l'idéal parce que j'ai un petit chez nous, mais bref, je pense qu'on est tous en train de s'arrimer, puis s'il y a eu, mais en fait, si vous me permettez, il y a une chose qu'on a vécu, professionnel, ergo, et toutes les équipes interdisciplinaires qui avons été délestées, c'était la solidarité, la force humaine pour apprendre à se connaître dans le plus difficile, dans le plus beau de l'humain. Alors ça, c'est une chose que je dois dire, puis qui résonne partout, je suis certain, chez mes consoeurs et confrères et collègues du réseau. On a été dans l'humain à son plus grand point, et ça, c'était réconfortant. C'est juste que tous ces humains, ces anges gardiens, hein, qu'on se rappelle les klaxons et les fanfares, oui. Tout le monde nous remerciait. Ben, les anges gardiens ont perdu des ailes, ils ont perdu des plumes. Alors, il faut continuer à penser à nous tous et surtout penser à toutes nos familles touchées, hein, parce qu'on essaie de donner les meilleurs services, mais veut pas, c'est différent. Donc, oui, on a eu le côté humain, puis oui, les technologies, on a dû faire un virage à 180 et s'y approprier ces fameuses technologies-là. Et je dois dire, somme toute, que on réussit quand même à faire du travail efficient, puis on continue à s'adapter. Donc, oui, ça a été quelque part quelque chose de positif dans tout ce qu'on a vécu, hein, Christian.
Il en faut. Il en faut. Ben, Frédéric Loisel, ergothérapeute, clinicien à l'Institut universitaire en réadaptation de déficience physique de Montréal. Ben, merci beaucoup d'avoir nous avoir parlé aujourd'hui pour qu'on puisse faire le point là, sur ces 6 derniers mois. Et qui sait, peut-être qu'on se reparlera à nouveau.
Ben, merci à vous, puis encore une fois, merci à tous les professionnels et tous les membres du soin et de la santé. Là. On ne lâche pas, puis ensemble, population et nous, on peut faire une différence. Donc, portez-vous bien, Christiane et toute l'équipe.
Au revoir, Frédéric.
Merci. Je lui ouvre les yeux.
s'annonce. Imaginez le pire avant qu'il gronde encore. Encore. Mêlée à un cauchemar que je dessine. La raison s'en va et la peur arrive encore. Dis-moi que la lumière reviendra. Je l'attends, je lui ouvre les bras. Et qu'elle vienne s'emparer de moi.
Chanson 1001, elle s'appelle Caroline Savoie, elle vient du Nouveau-Brunswick et si vous ne la connaissez pas, je vous invite à aller faire un tour sur toutes ces différentes plateformes. C'est vraiment une auteure, compositrice, interprète à découvrir. Et nous, ben, ça fait déjà, pardon, plusieurs mois qu'on en parle. On en parlait avant, évidemment, la crise sanitaire, mais c'est exacerbé depuis. Mais on va en parler encore aujourd'hui parce que c'est nécessaire. On fait le point sur la question des soins à domicile avec Dominique Salgado, directeur général du Comité d'action des personnes vivant des situations de handicap, le CAPVI à Québec, ainsi que François Allard, agent de défense des droits et porteur des dossiers santé-services sociaux chez Ex-Éco à Montréal. Bonjour, messieurs.
Bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous allez bien?
Oui, vous.
Oui, très bien. Ça va bien.
Alors, tout d'abord, je voulais parler, une question pour Dominique. Votre organisme a récemment demandé une commission parlementaire sur les soins à domicile. Pourquoi cette demande?
Ben, on le sait, en fait, depuis le début, hein, au lendemain du décret que le gouvernement a déclenché en rapport avec la COVID-19, à partir de ce moment-là, on a été exposé devant des failles importantes dans le système de santé, mais aussi dans le soutien à domicile. Alors, on se disait, il serait peut-être intéressant que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités, de mettre en place rapidement des mesures d'aide convenables aux personnes aux prises avec des incapacités. Parce que depuis le début de cette pandémie, depuis le décret, c'est l'oubli total envers les personnes ayant des incapacités. Et ça, c'est inacceptable. Alors, les personnes handicapées se sentent totalement oubliées et ce qu'on s'est dit, c'est que ces personnes ont droit à des services à domicile de meilleure qualité. Et c'est d'autant plus déplorable en temps de pandémie de constater justement que c'est un peu laissé à l'abandon. Et là, je fais référence au CSEC Emploi-Service.
Oui.
Parce que, évidemment, vous le savez, on a décidé de bonifier le salaire des préposés en CHSLD et du côté des employés qui travaillent par l'octroi du programme gouvernemental Chèque emploi-service, ben, ça se fait toujours attendre. Le gouvernement Legault avait promis d'injecter 800 millions en pleine campagne électorale pour les soins à domicile, puis force est de constater qu'il en a versé juste la moitié jusqu'à présent, aux environs 380 millions. Alors on se dit, il y a vraiment un ajustement qui est dû de ce côté-là.
Est-ce que vous avez l'impression que chaque fois qu'on parle autant d'institutions que de soins à domicile, on semble ne parler que des aînés? Ils sont importants, là, mais qu'on semble complètement oublier la réalité des personnes en situation de handicap?
Tout à fait, tout à fait. Là-dessus, je pourrais laisser François continuer. Nous, de notre côté, ce qu'on voit, c'est un scandale de l'invisibilité. Puis, c'est pas seulement au niveau du Québec ou au Canada, là, c'est au niveau mondial. Il n'y a pas de plan de gestion de crise inclusif depuis le début de cette pandémie.
François, vous avez fait valoir dans une lettre d'opinion que malgré une légère augmentation récemment consentie, que les salaires des préposés à domicile du chèque emploi, justement, continuent de ne pas être compétitifs. Pouvez-vous nous détailler ça petit peu?
Oui, tout à fait. C'est une lettre que j'ai publiée samedi dans la presse plus. En fait, je faisais référence à l'engagement récent du gouvernement. Ça a été fait il y a 2 semaines, si je ne m'abuse. Ils ont voté pour, finalement, une motion qui avait été déposée par Québec solidaire, qui, finalement, la motion rappelle l'engagement que la ministre McCann avait fait durant l'été d'augmenter le salaire des employés du chèque emploi service de 12%. Ça fait que, d'une part, rappelle l'engagement du gouvernement et, d'autre part, demande au gouvernement d'aller de l'avant avec ça d'ici janvier. Ça fait que le gouvernement a voté pour ça, donc à moins qu'il revienne sa parole, ce qui considère ce gouvernement ne serait pas non plus tout à fait étonnant, eh bien, on pourrait s'attendre à ce que le salaire augmente de 12% d'ici janvier. Cependant, là où ce que le bas blesse, c'est que ce salaire-là, moi, ce que j'ai appris, c'est que la hausse de 12% qui a été annoncée, en fait, serait appliquée sur le salaire pré-COVID, c'est-à-dire le salaire de chèque emploi-service auquel on soustrait les hausses temporaires, la hausse temporaire de 8% qui leur a été accordée au printemps. Donc, si on fait le calcul rapidement, par rapport au salaire actuel, la différence serait seulement de 60 sous. Donc, c'est pas énorme. 60 sous, là, je parle à Montréal. Là, je me prononce pas pour les autres régions. Ça risque d'être un peu moins parce qu'on sait que c'est à Montréal ou que c'est le plus élevé. Je sais pas comment c'est à Québec, Dominique, proprement en dire plus. C'est à Montréal, c'est à 16,40. 16,40, ça comprend la hausse d'1,20 qui avait été faite au printemps. Donc, de 12% sur le salaire pré-COVID, ça revient à 1,80 de plus, ou 1,60 en fait. Donc, ça nous mettrait aux environs de 17 $, ce qui est encore tout à fait important.
Et c'est quoi, quelles sont les conséquences là, du fait que le salaire pour le chèque emploi n'est pas compétitif par rapport aux autres salaires de préposés aux bénéficiaires?
Ah ben c'est la même chose qu'on répète depuis le début, tu sais, c'est que ça fait en sorte que les personnes en situation de handicap, en fait, font face à des difficultés de très importantes difficultés pour embaucher des préposés au travers de ce programme-là. Ce qui fait que d'une part, pour ceux qui ont déjà des préposés au chèque emploi service, que ça fait, c'est que ça peut accroître le lien de dépendance entre eux et leurs préposés parce qu'ils n'ont pas... S'il y a quelque chose qui se passe pas bien, ils sont obligés de congédier, mais ils n'ont vraiment pas l'assurance d'en trouver un autre rapidement. Fait qu'ils pensent à deux fois avant de s'embarquer là-dedans. Puis pour ceux qui n'en ont pas, en fait, tout simplement dépendant des situations, ça peut signifier pour certains le transfert inévitable dans un CHSLD ou dans une résidence analogue. Ouais. Ou encore, ça peut juste avoir pour effet d'accroître le lien de dépendance de ces personnes-là envers leurs proches aidants, le chum, la blonde, les enfants, la famille.
Dominique, est-ce que vous avez eu des témoignages de gens qui ont eu des bris de service?
Oui, tout à fait. Des gens qui tissaient des liens depuis de nombreuses années. Faut comprendre que lorsqu'un préposé fait du soutien à domicile, ça devient un peu un membre de la famille. Du jour au lendemain, après 12 ans d'assistance, ou même j'en ai qui ont 15 ans et plus d'assistance à domicile avec les mêmes personnes, ben à ce moment-là, du jour au lendemain, cette personne, le préposé décide d'aller travailler en CHSLD pour un meilleur salaire. C'est des bris de service directs. Et les usagers, du jour au lendemain, faire confiance à une nouvelle personne pour du soutien à domicile, c'est pas évident. Puis imaginez à 80, 90 ans, ça l'est encore moins. Alors, les conséquences directes, c'est aussi des bris de service. Puis je dirais même également que ça met en péril aussi les conditions de vie de plusieurs personnes handicapées. Parce que on le voit, on le sent sur le terrain, il y a plusieurs personnes qui sont en danger. Lorsqu'on remarque des délais importants dans le changement d'une culotte d'incontinence ou des retards interminables pour une vidange de vessie, écoutez, là, on parle de la vie des gens. Là. C'est inacceptable. Puis c'est là-dessus aussi qu'on voudrait se faire entendre en commission parlementaire, de dire qu'on ne peut pas jouer avec la santé des gens comme ça. Il va falloir trouver une solution, puis combler le manque du côté des préposés dans chaque emploi-service. Là.
Tout à fait.
On a aussi permis à certaines familles que les membres de la famille immédiate puissent toucher le chèque emploi-service pour les services qu'elles rendent. J'imagine que dans le contexte de la crise sanitaire, pour certaines familles, ça pouvait être une bonne nouvelle, mais à moyen-long terme, François, est-ce qu'il peut avoir des conséquences sur l'autonomie des personnes en situation de handicap?
Oui, tout à fait. Bien, en fait, l'enjeu, c'est comme vous le dites, puis comme je l'ai dit dans ma lettre d'ailleurs, tu sais, c'est... dans l'absolu, si quelqu'un, si le choix auquel quelqu'un est confronté, c'est soit d'être aidé par quelqu'un de sa famille ou d'être en allant en CHSLD, mais le fait qu'il puisse maintenant rémunérer les gens de sa famille, ben c'est probablement une bonne nouvelle. Cependant, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça s'inscrit dans une tendance du gouvernement à, en lieu et place, de bonifier significativement les salaires de chèque emploi-service. Le gouvernement va donner des bonbons, on va dire, aux proches aidants, ce qui donne qui contribue à rendre leur tâche plus à faciliter le rôle de proche aidant, c'est-à-dire des crédits d'impôt, comme ça a été annoncé au budget l'année passée, pouvoir les rémunérer au chèque emploi-service. Eh bien, moi, de la manière que je vois ça, c'est que c'est une manière que prend le gouvernement de dire, ben d'augmenter le salaire de ces personnes-là, ce qui permettrait de faciliter l'embauche de nouvelles personnes, eh bien, on va permettre aux personnes en situation de handicap d'engager des personnes qui feraient la job même si elles n'étaient pas payées, tu sais, à la limite, parce que c'est ça le principe d'un proche aidant, c'est qu'il y a une grosse part de bénévolat là-dedans. Fait que c'est une manière... Moi, j'ai l'impression qu'à long terme, c'est encore une manière détournée d'affaiblir l'autonomie des personnes en situation de handicap.
Tout en n'offrant aucun soutien autre que financier aux proches aidants.
Qui
se retrouvent quand même avec un 24 heures sur 24 à être responsable de la personne aidée.
Oui, exactement. Alors que c'est ça. Donc, ça accroît le lien de dépendance entre la personne en situation de handicap et son proche aidant, alors qu'il y a quelque chose, sans vouloir réduire le rôle des proches aidants, on s'entend qu'il y a quelque chose qui permettrait vraiment d'accroître l'autonomie de la personne en situation de handicap, eh bien, ce serait de lui permettre d'avoir ses propres préposés et de ne pas avoir de difficultés ni à les trouver et, en fait, à pouvoir bien les choisir, ce qui demande une augmentation substantielle de leur salaire, tant et aussi longtemps que le gouvernement augmente pas les salaires des préposés du chèque emploi-service, eh bien, des mesures qui améliore les conditions des proches aidants, mais c'est pas quelque chose qui améliore la liberté de choix, c'est juste un moindre mal, on va dire.
Donc, le constat pour l'instant, c'est un manque de choix, un manque d'autonomie amené par ces problèmes, ce salaire non compétitif et ces bris de service. Messieurs, je vous remercie. J'imagine qu'on va encore s'en reparler, mais on se souhaite bonne chance quand même et on espère que la demande du CAPVIE de commission parlementaire aura un bon suivi. Alors, je vous remercie, messieurs, pour votre participation aujourd'hui.
Merci. Au revoir.
Bonjour.
Alors, on arrive déjà à la fin de cette édition d'Accès libre. On se retrouve, il n'y a pas d'émission la semaine prochaine, on se retrouve le 19 octobre avec un tout nouveau rendez-vous pour discuter des enjeux de l'inclusion. C'était Christiane Campagna avec vous aujourd'hui. Bonne journée.